Bien, bonjour. Donc, je suis Benjamin Coriat. Je suis à la fois universitaire. Oui. Donc, je suis universitaire. Je suis prof à Paris 13 et membre d'une unité mixte CNRS, université recherche CNRS. Voilà. Et par ailleurs, je suis membre du collectif d'animation des économistes atterrés. Bien. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Mon point est un peu dissonant par rapport à ce que j'ai entendu, parce que mon souci, je suis économiste, nobody's perfect, mon souci c'est l'impact sur l'innovation. Et donc comment est réparti l'emploi scientifique, ça a une importance évidemment, mais surtout par rapport à ça. C'est ça qui me préoccupe. Moi, c'est pas du tout, je le dis très clairement, c'est pas du tout nécessairement la création de l'emploi scientifique public. Si il est démontré, il s'avère qu'il a des effets positifs en termes d'innovation, c'est-à-dire de création de centaines et de millions d'emplois pour les Français, je suis preneur. Sinon, il faut regarder. Voilà. Alors, donc, par rapport à ce point, où en est-on de la politique d'innovation en France? Alors moi, j'ai des critiques très sérieuses à faire sur le CIR, sur le crédit d'impôt recherche, mais vous allez voir pourquoi, et ce n'est pas forcément les mêmes que celles qui ont été entendues ici. Bien, alors, ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. C'est le point central. Le point central, c'est qu'on ne peut pas comprendre le CIR, comme tout le reste d'ailleurs, si on n'a pas en tête qu'on est en train de changer radicalement de modèle d'innovation en France. Voilà. On passe d'un modèle qui a été très efficace, le modèle des Trente Glorieuses, le modèle des années 60, dans lequel d'ailleurs la recherche publique jouait un rôle fondamental, je vais y revenir, et qui était le modèle des grands projets, et qui est un modèle qui a été extrêmement efficace. C'est le modèle de la période la plus, du point de vue en tout cas de l'emploi et du bien-être, la plus favorable qui ait connue l'économie française depuis très longtemps. Il y a d'autres problèmes. On a créé les conditions de catastrophes écologiques multiples, d'inégalités multiples, etc. Mais en tout cas, de ce côté-là, ça a marché. Bien. Donc on passe de ce modèle à un tout autre modèle qui est en train de se chercher. Et pour le dire très vite, mes critiques sont pas moindres que celles qui ont été entendues, mais elles ne sont pas de même nature. Bien. On passe, pour le dire en clair, à un modèle néolibéral de production de l'innovation, sur lequel, comme vous pouvez vous en douter, j'ai les plus grandes réserves et, pour tout dire, les plus grandes critiques. Mais, je répète, elles ne sont pas forcément de même nature que celles qu'on a entendues jusqu'ici. Alors, ce que je voudrais, c'est me rappeler brièvement quel était l'ancien modèle, pourquoi il est entré en crise. Pas de nostalgie, on ne peut pas revenir à l'ancien modèle, et je vais dire pourquoi. Le nouveau modèle et les problèmes qu'il pose. Alors, l'ancien modèle, mon slide est en anglais, donc ça s'appelait A Bit of History, donc je vais passer très vite, c'est des grands projets à la crise. Oui, ça fait rien, ça n'a pas d'importance, je le sais. Si vous voulez, mais c'est un peu compliqué, c'est un Mac, donc je sais pas si y a ce qu'il faut. Oui, mais il faut tout un bazar de connexion. Je comptais pas le faire avec, mais ce n'est pas d'importance. Ça aidera, ça vous aidera. Bon, je continue. Mon premier point, c'est des grands projets à la crise du financement de la forme publique, de la forme de financement de l'innovation en France. En anglais, mon truc, c'était R&D, la R&D et l'innovation. Alors, 50-70, je reviens très rapidement, mais parce que ça me paraît très important, c'est très absent de la discussion d'aujourd'hui, et il faut en dire un mot. Le grand modèle canonique historique de l'efficacité française en termes d'innovation. Je ne sais pas très bien comment ça marche.
Il faut se brancher.
Ouais, c'est là. Non, c'est pas là. C'est là.
Attends, de votre côté. Voilà.
Hop. Vas-y. Voilà, et après il y a un système.
Là on attend, ça va venir.
Peut-être. Ok, bon, je continue. Le modèle des années 50-70. Alors, j'insiste sur ce point, et je le dis tout de suite, ça va être dissonant par rapport à ce qu'on a entendu ici. Hein. Bien. Le modèle 50-70, c'était un modèle de rattrapage. Il faut se rappeler que les élites françaises ont été catastrophées par la défaite de la guerre, hein, de la Grande Guerre, et qu'elles l'ont en partie attribué à du retard technologique, hein, les Panzerdivisions allemands, les avions allemands, etc. Et que c'était à l'époque plus jamais ça. Donc plus jamais ça, c'était d'abord faire le rattrapage technologique. Et c'est donc la période pendant laquelle on a mis en place les grands instituts de recherche, à vocation générale ou spécialisée. Donc le CNRS, l'INSERM, un peu plus tard le CEA, l'INRIA, etc. Bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette particularité française, hein, qui est qu'on a des instituts qui sont entièrement dédiés à la recherche, alors que partout ailleurs dans le monde, il y a une combinaison enseignement-recherche qui est absolument la règle. Hein. Des instituts entiers, entièrement dédiés à la recherche, ça n'existait pas. Bien. À cette époque-là, de plus, nous avions un très large système bancaire public, hein, même avant les nationalisations de 81, et nous avions de grands groupes publics. Alors, cette triple chose, un système de financement public de la recherche dédié dans des grandes institutions.
Ah, il y a le fond là, déjà, c'est un progrès. Ton fond d'écran. Tu penses à tenir un peu le timing.
Voilà.
Oui, c'est bien, c'est impeccable derrière.
OK. Plus des entreprises publiques, plus du financement public, a favorisé le démarrage des grands projets. Bien. Alors, ces grands projets, je ne vais pas rentrer dans les détails, on les connaît tous, ils ont eu des résultats spectaculaires dans les télécoms, le doublé Alcatel France Télécom, dans l'aéronautique, dans les transports, etc., etc., en dépit de quelques échecs. Et alors là, par rapport à mes... collègues néolibéraux qui nous parlent tout le temps des échecs, etc., les succès sont bien supérieurs aux échecs. Et les échecs privés sont aussi innombrables. Donc, je veux dire, ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Et ça doit être dit. Bon, alors, je reviens pas dans les détails. Catastrophe, dans les années 80, tout ça entre en crise. Tout ça entre en crise pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a la montée de la compétition entre territoires et certains territoires attirent de l'investissement et de la recherche de manière très importante au niveau mondial. Ensuite, on a de nouvelles vagues technologiques, la microélectronique, la biologie moléculaire, etc. C'est vrai, alors je vais peut-être chagriner un certain nombre d'entre vous, mais c'est vrai que les grands instituts spécialisés n'ont pas brillé là, hein, parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Hein. Ils n'ont pas été capables de prendre les virages des nouvelles technologies qui ont souvent été pris dans des endroits inattendus, hein, dans des laboratoires de recherche bizarres, dans des... etc. Bien. Et puis, en même temps, c'est l'époque néolibérale qui s'affirme dans toute sa puissance. C'est Reagan, Thatcher. Et donc, c'est la nouvelle vision qui s'impose. Alors, la nouvelle vision, elle n'est pas née en un jour. Elle s'est faite progressivement à travers un certain nombre de lois, de transformations, de etc., etc. Bien. Mais néanmoins, il y avait quelques principes. Le principe, c'est quoi? C'est que les grands instruments de financement de la recherche ont été progressivement déverticalisés et déspécialisés et ont été remplacés par des formes d'horizontalisation et de territorialisation du financement de l'Institut. Pour donner un exemple très simple, la montée des pôles de compétitivité, par exemple, etc., c'est des choses complètement nouvelles. Hein, je veux dire, l'innovation, on n'avait jamais imaginé que ça passait par là. Bien. Et on les a fabriquées, et en France, à la manière française, de toutes pièces, avec beaucoup d'argent public qui leur a été donné. Voilà. Mais surtout, ce qui est très important, hein, ce qui est très important, et ça c'est mon point de critique fondamental, mon point très important, c'est que l'idée implicite, c'est que l'entreprise est le générateur de l'innovation, et pas du tout le système qui entoure l'entreprise et qui rend possible l'innovation, hein, comme c'était la pensée de l'époque des grands programmes, et l'innovation est un processus émergent qui doit être tiré par les forces de marché. C'est ça qui s'est imposé. Et c'est ça la doxa encore aujourd'hui. Et le crédit d'impôt recherche, pour venir directement au fait, c'est directement ça. C'est les entreprises qui savent. Donc on les laisse faire. Elles énoncent ce qu'elles veulent comme programme, etc. Et nous, on paye. Et nous, on paye par en abondant. Et je ne reviens pas là-dessus, ça a été dit plusieurs fois ce matin, il y a eu en plus des réformes du crédit d'impôt recherche qui faisaient que c'est plus seulement la dépense marginale qui est financée, aidée, que c'est la dépense totale, ce qui est une pure catastrophe. Parce que c'est vrai qu'en termes, moi je suis économiste, en termes d'incitation, autant l'aide à la dépense marginale est un outil d'incitation qui peut être envisagé, autant l'aide à la dépense totale, alors là, 3 fois 0, et ça se démontre, enfin, je veux dire. Même mes amis de Toulouse, du School of Economics, sont capables de démontrer ça, et d'ailleurs, ils se privent de le faire sur la question de l'impôt recherche. Mais ils pourraient très bien le faire. Alors, du coup, on a introduit de nouveaux instruments. Hein, on a introduit de nouveaux instruments. Alors, je vais choquer beaucoup de gens ici, sans doute, mais je tiens à le dire. Les nouveaux instruments, c'était quoi? C'était de rompre avec cette idée que ceux qui font la recherche sont aussi les évaluateurs et sont aussi ceux qui définissent les programmes. Bon. Et c'est vrai qu'en France, on avait un truc absurde. À savoir, c'est le CNRS, hein, pour parler vite, hein, qui fait l'évaluation de lui-même. Il n'y a qu'en France, hein, qu'on a une chose pareille. Hein, il n'y a qu'en France. Hein. Avoir un évaluateur... Mais non, c'est pas du tout complètement faux. Je suis membre du CNRS, j'ai pris soin. Écoutez, j'ai appliqué pour le CNRS. Non, mais attendez, on va parler très clairement là. Hein.
Non, mais on débattra. Non,
on débattra après.
Ouais, on débattra après. Mais il faut pas dire que c'est faux. Il faut pas dire que le CNRS certifie pas les laboratoires CNRS. Il faut pas dire ça. Bien. Voilà, je continue. Mais si je suis pas interrompu, je continue, il n'y a pas de souci. Bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ça, oui, je voulais dire qu'on a créé donc l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, dont je me félicite qu'elle existe, et dont je dis tout à fait clairement, oui, je vais dire pourquoi, dont je vais dire tout à fait clairement qu'il y a toute une série de projets de recherche qui ont pu être menés en France, qui n'auraient jamais été menés sans l'ANR. Alors après, il y a des critiques à faire, etc., bien, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que combiner de la recherche sur projet en mettant en compétition tout le monde et de la recherche publique avec des laboratoires qui s'autodistribuent de l'argent est un principe tout à fait sain, et que tout faire reposer sur un principe ou sur l'autre est une énorme connerie. Voilà, voilà ce que je pense. Donc, vous voyez, je le dis tout à fait clairement. Bien, alors donc, création de l'ANR, dont je pense encore une fois que ça a été une très bonne innovation. En même temps, on a créé l'AERS, l'agence d'évaluation, et finalement, les grands instituts ont eu sa peau, puisque l'AERS va disparaître. C'est pas que je trouve que l'AERS était une merveille, hein. Il y a plein de critiques à faire. Mais avoir une agence indépendante de ceux qui font la recherche me paraissait un bon principe. Voilà. Voilà. Et on a eu donc une modification, on a eu une tentative de modification des anciens, de certaines agences de recherche en agences de financement de la recherche. L'IRD, par exemple, a beaucoup joué ce jeu, le CNRS, pas du tout. Je ne porte pas de jugement là, hein. Je dis que c'est la tendance qu'on a voulu. Bon, et c'est dans ce cadre qu'on a fabriqué le CIR. Et on a fabriqué le CIR comme outil pour effectivement supprimer de l'argent alloué à des centres de recherche pour le mettre entre les mains des entreprises elles-mêmes, avec évidemment comme seule justification de la paperasse pour montrer qu'on a dépensé cet argent pour de la recherche, ce qui a donné lieu à tous les travers qui ont été dénoncés et que, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai, et ça pose de graves problèmes. Hein. Et il faut réfléchir à comment faire. Je reviens pas sur les activités éligibles, puisque ça a déjà été dit. Dernier point du nouveau programme, le fait qu'une grande partie de l'argent a été détournée, si je peux dire, vers les territoires et la notion d'attractivité. C'est un des nouveaux concepts du modèle néolibéral. C'est l'entreprise qui sait, hein, le sachant en matière d'innovation, c'est l'entreprise. Et le lieu où ça doit se faire n'est plus de penser des programmes cohérents autour d'une filière, autour d'un objet, autour d'un produit, etc., mais à partir des territoires. C'est la fameuse idée des clusters.